Monique Le Cauffle, bonjour.
Bonjour Sandra.
Alors, notre thème d'aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions Miracle de la Miséricorde, c'est Il essuiera toutes larmes de nos yeux. Et vous proposez ce thème en mémoire de Joël, qui est décédé il y a quelques jours. Il avait participé à deux émissions. L'une avec vous, c'était le 23 juin 2022, émission au cours de laquelle il avait donné son témoignage sur le thème de la paternité. Et il est également, on a entendu également son témoignage dans l'émission Maternité blessée avec le docteur Pascal Pissochet. Et pour réécouter donc ces deux émissions en podcast, donc la date avec le docteur Pascal Pissochet, c'était le 19 novembre 2022.
Lorsque l'on évoque l'avortement, la plupart des personnes pensent à l'enfant perdu et à la maman, et notamment à celle qui a été amenée à vivre le choix douloureux de l'IVG. Mais les pères aussi subissent les ondes de choc de l'avortement et ils ont besoin de guérison. Alors aujourd'hui, nous évoquerons particulièrement le témoignage de Joël à propos de l'IVG. Nous allons nous centrer justement sur les papas, ce dont il a témoigné. Les pères qui témoignent sont très rares. Et Joël, il devait revenir pour une prochaine émission, mais il a soudainement rejoint la maison du père en ce début d'année. Aussi, nous allons vous partager aujourd'hui quelques bribes d'un livre qu'il avait été invité à écrire, dans lequel il nous fait part de son témoignage et de sa riche expérience. Et aussi, nous poursuivrons ensemble avec lui et avec les enfants du ciel qu'il a rejoints notre émerveillement devant la vie, afin de rendre gloire à la miséricorde divine qui nous est prodiguée. Si vous êtes un homme qui se sent confus au sujet d'une expérience de l'avortement et qui se demande si cet événement a pu avoir un impact sur votre vie, je souhaiterais que les mots de Joël puissent particulièrement vous rejoindre. Si vous voulez tendre la main en tant qu'ami, membre de la famille, conseiller ou accompagnateur, le témoignage de Joël pourra aussi ouvrir votre sensibilité et votre compréhension nécessaires pour guider efficacement des hommes vers une profonde guérison intérieure et vers la paix. Certains témoignent de paternité avortée, entre guillemets, considérant l'atteinte émotionnelle profonde d'hommes impliqués dans l'avortement, qui peut susciter de très fortes répercussions, notamment de la violence, des comportements de dépendance, d'addiction, l'isolement, la résistance à l'autorité, une difficulté à établir des liens avec des femmes et aussi avec les enfants. Donc, avant de plonger dans le livre de Joël, qui évidemment c'est tout son témoignage, en plus c'est tout son cheminement de conversion, de rencontre avec le Seigneur. Joël était juif et il a fait la rencontre du Seigneur. Et là nous rejoignons vraiment les miracles de la miséricorde parce que à travers les petits-enfants, ils sont vraiment des médiateurs et des intercesseurs pour nous. Et ils nous donnent aussi de rentrer dans ce mystère d'amour du Seigneur et de la miséricorde. Les fondateurs de la vigne de Rachel, dont nous allons témoigner, puisque Joël a participé depuis plus de 10 ans au développement et à la naissance de la vigne de Rachel en France. Kevin Burke, qui est l'époux de Teresa, il disait, en ce qui concerne l'avortement, les femmes peuvent subir la démarche et les soins, mais cela ne signifie pas que les hommes sont exempts de la douleur. Alors, en 1971, Joël nous dit, dans ces années-là, l'idéologie de plus en plus ambiante est déjà d'être à l'écoute de ses désirs et de les satisfaire, du moins certains. La question de la virginité ou de la chasteté ne se posant pas pour nous, nous avons des relations sexuelles avec son ami Dominique. Pour moi, ce sont les premières. Ces liens amoureux produisent en moi, en nous, l'impression d'atteindre à des hauteurs qui ne sont pas de ce monde, peut-être. Et il nous donne de croire que rien ne peut nous arriver. Je suis vaguement conscient que nos rapports peuvent être à un certain moment fécondants, mais hélas, mille fois hélas, la passion est plus puissante que la prudence. La bêtise et l'inconscience sont incommensurables. Après ces semaines à deux qui m'ont redonné vie, elle repart dans sa province pour ses études. Moi, le cœur pris et l'esprit lié, je me retourne. Je ne retourne même pas à la fac. Pour mon année de licence, je suis complètement démotivée. Quelques jours plus tard, Dominique m'appelle et m'apprend qu'elle est enceinte. Je me souviens alors du moment où la conception a eu lieu. Je m'étais dit quelque chose en mon fort intérieur, mais je ne m'étais pas écoutée. Nous prenons cela comme une catastrophe. Et c'est en 1971, un voyage à Londres est organisé. Après le retour, après deux jours à Londres, Joël vient l'accueillir au train et elle repart dans sa province. Et il dit « Je rentre chez moi, chez mes parents, le cœur bien lourd, sans en savoir la raison, sans vouloir le savoir. Mais déjà, bien sûr, je la sais. Je viens d'avoir 21 ans. Qu'elle aura dans quelques semaines. Je passe les mois suivants dans un profond chagrin. Une nuit, une fois de plus, je sanglote dans mon lit. Mon père m'entend, entre dans ma chambre, met sa main sur mon épaule et l'y laisse longuement en silence. Mon père, mon pauvre père, pauvre père au pluriel, nous écrit-il. Alors, 4 ans plus tard, Dominique envoie un message à Joël. Et là, il dit, il y a tellement longtemps, cela me touche, mais à présent, ce ne sont plus les amours humaines qui me parlent. Je lui réponds en lui faisant part de ce que je suis en train de vivre. Je viens de découvrir Jésus. Il se peut que ça la dérange, je le sais, et j'en éprouve un certain contentement, obscurité de notre esprit. Et encore, bien plus tard, j'essaierai de rentrer en contact avec elle dans le dessein d'une démarche de pardon par rapport à l'avortement. Elle me fait dire qu'elle ne souhaite pas donner suite. Tout cela ne m'appartient pas pleinement, ne nous appartient pas, nos vies. À qui appartiennent-elles? Mais quelque chose en moi a été irrémédiablement brisé et je n'en ai pas conscience. Joël, à ce moment-là, fait plusieurs petits boulots, notamment parce qu'il doit payer la dette qu'il avait contractée pour pouvoir prendre en charge les frais de cet avortement à Londres. Et il nous dit « Cette activité me redonne confiance en moi après l'échec de ma vie amoureuse. Je m'aperçois que je travaille bien, que l'on peut compter sur moi, que l'on m'apprécie. Et ça me permet surtout, c'est la raison pour laquelle j'ai pris cet emploi, de rembourser les dettes contractées pour payer le trajet de Dominique vers Londres et ce qui s'y est passé. Je me fais un point d'honneur à ne pas lui en dire un mot. D'ailleurs, il n'y a plus de contact entre nous. Et je veux restituer la somme dans sa totalité. Alors que la logique voudrait qu'elle, peut-être, elle participe. J'ose même penser que mon geste de tout payer sans mot dire fait de moi un être noble et généreux. Mon égo, mais où donc es-tu tombé ? Nous écrit Joël. Il se peut que ce soit simplement la légitime satisfaction de commencer à réparer ce dont j'ai été complice, même si je n'ai qu'une vague conscience de tout ce que cela avait impliqué. Je savais sans savoir. Réparer, si tant est que cela soit possible, d'ailleurs, cela ne l'est pas. Pendant 4 années, ne se pose pas pour moi la question de la culpabilité de l'avortement. Pourtant, bien entendu, tout ce que je vivrai durant ce temps manifeste que ça me travaille, mais c'est hors de mon champ de conscience. Un jour, je comprendrai. Et donc, Joël ensuite nous témoigne, nous n'avons que quelques instants ensemble, il nous témoigne de tout son cheminement et il devient chrétien et catholique, il est baptisé au Lot, mais c'est donc un beau chemin de conversion qui manifeste aussi cette grâce des enfants. Alors, plus tard, il nous témoigne justement de ce lien qui nous a amenés à collaborer pendant 10 ans, même plus de 10 ans, puisque nous sommes déjà en 2023, dans l'œuvre de la vigne de Rachel. Il nous écrit « 2010, j'entends parler de la vigne de Rachel qui propose des week-ends de guérison spirituelle des souffrances de l'avortement. Je prends contact, non pas tant pour ma guérison propre qui est en bonne voie que pour proposer mes services. Au début de l'année suivante, je fais un week-end comme participant pour entrer dans l'esprit. Je suis bien remuée malgré le long chemin que j'ai déjà effectué. Aurons-nous jamais fini de sortir de la mort ? Rencontre renouvelée et fulgurante d'Olivier, mon enfant perdu, qui ne l'était plus depuis 15 ans. 15 ans après, à nouveau, je lui écris une lettre. Son père a changé. Lettre que je lis, comme toutes les participantes lors de la commémoration solennelle de la remise de nos enfants à Dieu. Cette fois-là, déjà, Joël était, pour cette retraite-là, tout seul, comme homme, avec des participantes. À nouveau, larmes, joie, gratitude. Lettre que je relis de temps à autre, parce que mon esprit ne cesse de se rendormir, d'oublier, qu'il a du mal à demeurer dans la lumière parce qu'il a besoin d'être secoué, réveillé. Aussi, je pénètre toujours plus dans le mystère insondable de la paternité. Émotion de m'adresser à ce fils qui aurait cette année 42 ans s'il avait vécu en ce monde, lui qui est dans l'aujourd'hui de Dieu, dans la jeunesse éternelle. Lui qui, auprès du Père, chante ses louanges, m'attend et me prépare une place en compagnie des différents pères que j'ai eus. Mon père Étienne, Chantidas, le père Vernet, qui était son parrain, le père Bernard-Marie, mon accompagnateur des Béatitudes et les autres. Dès la fin de cette même année, puis les années suivantes et jusqu'à aujourd'hui, je deviens animateur des retraites Vigne de Rachel. Avec 2-3 amis qui en ont fait bien sûr l'expérience, ayant connu elles-mêmes une perte identique, nous accompagnons des retraites durant un week-end dense et intense à raison de 2, 3, 4 par an. Des témoignages. Quelques témoignages. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de vivre cette expérience avec des personnes dans la même situation que moi, je n'ai plus ce sentiment de solitude et d'indignité. Il n'y a pas de mots pour expliquer la guérison que j'ai vécue pendant cette retraite. Douceur et tendresse ont surgi dans un domaine où tout n'était que segment de l'âme. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cette retraite était vraiment inspirée par Dieu. Je suis reconnaissante d'avoir été conduite dans une telle intensité de la douleur à la lumière. Dieu seul peut faire cela. Des témoignages qui ne sont pas de la publicité ou de la propagande mensongère. À chaque fois, nous sommes tous et toutes, je ne suis la plupart du temps que le seul homme, mais qu'est-ce qu'un homme vient faire dans ces histoires de femmes ? Nous sommes émerveillés par ce qui s'y passe, de voir œuvrer avec puissance l'amour guérissant et miséricordieux de Dieu. La vigne de Rachel, qui a commencé aux États-Unis en 1995, présente, lorsqu'il écrit son livre dans 48 États de ce pays et dans 37 pays, aujourd'hui dans 80 dans le monde, existe en France depuis 2009. Ces retraites permettent de quitter la pression de la vie quotidienne, le temps d'un week-end, pour se concentrer sur le vécu de l'avortement, mais aussi les fausses couches et autres pertes, dans un climat sécurisant, aimant et dénué de tout jugement. Elle propose un certain nombre d'exercices centrés sur les écritures vivantes, une manière de s'approprier concrètement la parole de Dieu pour exprimer ses émotions, y compris les plus enfouies. Ces exercices permettent d'entrer dans une nouvelle relation à l'amour et à la compassion de Dieu et des autres, en accédant au pardon pour soi-même et pour autrui. Cet accompagnement qu'il m'est donné de faire mois après mois, année après année, me plonge avec toujours plus d'étonnement et d'émerveillement dans le mystère de la bonté du Dieu vivant qui n'a de cesse de nous sauver, de nous délivrer de la domination du malin. Plus tard, j'écris une lettre à Dominique, la maman d'Olivier, quelque chose comme « J'ai confiance que ma démarche est pour le moins inhabituelle. Mon dessein est la suivante, de demander pardon pour la souffrance que je t'ai occasionnée lorsque nous nous sommes connus. Cette souffrance particulière, indicible, qui demeure au fond de ton être de femme. Pardon, pardon, pardon. » J'aimerais dans cette lettre un peu sibylline m'épancher davantage, mais comme elle pourrait être lue par d'autres personnes, je dois me restreindre. Cependant, plus de mots pourraient-ils toucher le cœur de Dominique, si celui-ci s'est emmuré depuis des années? Toutes ces femmes, ces mères, que l'avortement a meurtries au plus profond d'elles-mêmes, en France et dans le monde entier, des milliers et des millions, qui entend leur cri? L'entendent-elles elles-mêmes? Ont-elles seulement le droit de l'entendre, et tous ces hommes, ces pères, et tous ces grands-parents qui s'ignorent, et ces frères et ces sœurs, et tous ces médecins, ces militantes, ces hommes politiques et du monde de l'information, et toute cette humanité en train de s'auto-détruire? Pardonne-leur. Pardonne-nous, Père. En France, aujourd'hui, l'avortement est remboursé intégralement par la Sécurité sociale. Les jeunes filles mineures peuvent avorter sans l'accord de leurs parents. Le délai de réflexion d'une semaine a été supprimé. La situation de détresse des femmes n'est plus exigée, elle est même écartée. La femme peut avorter jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. L'entrave à l'avortement est un délit sévèrement sanctionné par la loi, ainsi que le délit d'information. L'avortement est considéré comme le summum de la libération des femmes, et ceux qui ne sont pas d'accord sont considérés comme des ennemis de l'humanité, des criminels. Car la sagesse de Dieu est folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Alors, le chapitre suivant est une divine surprise. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le raisonnement de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Oui, un peu de folie dans ce monde sans profondeur ni hauteur. Ce chapitre a été écrit bien après la rédaction de l'ensemble, le 31 juillet 2016. Je suis à Notre-Dame-du-Lot pour fêter le 40e anniversaire de mon baptême, ma nouvelle naissance, jour glorieux entre tous. Il m'est donné à cette occasion, dans le cadre du jubilé de la miséricorde, de témoigner devant une centaine de pèlerins de l'amour de Dieu venu à ma rencontre. C'est ainsi que je parle à propos de l'avortement, du rêve déjà rapporté, où mon ami de jeunesse qui avait vécu ce drame me présentait deux enfants. Rêve à l'issue duquel je m'étais pardonnée par Dieu, réconciliée avec moi-même. Je dis à nouveau que je n'avais pas compris qu'elle me présentait deux enfants. Là, mon interprétation du rêve se trouvait face à un obstacle. Mais je n'avais pas le moins du monde cherché à le franchir, à comprendre. Ce qui n'est pourtant pas dans mes habitudes, il faut croire que cela me dépassait complètement. Et voilà qu'à l'issue de mon témoignage, parmi les personnes qui viennent me voir, une femme me parle de l'avortement et de ce rêve. Elle me dit simplement que je pourrais comprendre qu'il y a eu deux enfants avortés, des jumeaux. Après quelques instants de résistance, d'hésitation, j'accepte la proposition et je suis pris d'une profonde émotion. Est-ce l'esprit de vérité, désirant se faire connaître? Ainsi, ce n'est pas un enfant du ciel que j'aurai, mais deux. Quel bouleversement, quelle folie! Folie de l'amour et de l'humour de Dieu. J'en parle au téléphone à Monique, mon amie de la vigne de Rachel. Elle me dit oui, c'est peu à peu que Dieu nous révèle ce que nous pouvons comprendre, ce que nous sommes prêts à accueillir quand l'heure est arrivée. Ne serait-ce pas le présent qu'il a voulu m'offrir pour le 40e anniversaire de mon entrée dans sa vie, de l'entrée de sa vie en moi? Me faire maintenant à l'idée, peu à peu, m'habituer, me laisser habiter. Pousse des cris de joie stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en chant d'allégresse, toi qui n'accouches pas, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, déclare le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Déploie sans contrainte l'étoile qui t'abrite, allonge ses cordages, consolide tes pieux, car tu devras t'étendre à droite et à gauche. Sans contrainte, doucement, prudemment, un jumeau à mon fils du ciel, Olivier. Et ne serait-elle pas une jumelle? Comment la nommerais-je? Elle sera Judith, une figure de Marie. Yehudit, la juive, la louée, celle qui coupa la tête de l'ennemi d'Israël. Accueillir ma fille du ciel, me laisser accueillir par elle. Ô grand Dieu, Seigneur des miséricordes, le loué, le seul digne de louange. Et Joël nous fait une sélection de quelques textes qu'il nomme « paroles dérangeantes », qu'il prend dans la Bible pour la plupart. Dans l'Exode, tu ne commettras pas de meurtre. C'est toi, dans le psaume 138, c'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonnée dans le secret, modelée aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevée, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés, avant qu'un seul ne soit. Pendant l'avortement, l'âme gémit et crie de douleur et l'on entend un cri au ciel, car il est ébranlé. Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quand Dieu est nié, quand on vit comme s'il n'existait pas, ou du moins sans tenir compte de ses commandements, on finit vite par nier ou par compromettre la dignité de la personne humaine et l'inviolabilité de sa vie. Dans Isaïe, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui rendent doux ce qui est amer et amer ce qui est doux. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et avisés à leur propre sens, à ceux qui pour un cadeau acquittent le coupable et déboutent celui qui a de droit pour lui. Aussi, comme le chaume est dévoré par une langue de feu et comme la paille est consumée par la flamme, leur racine va tomber en pourriture et leurs fleurs s'envoler comme la poussière, parce qu'ils ont répudié la loi du Seigneur des armées et méprisé la parole du Saint d'Israël. Pauvres enfants, c'est une parole de Maria Valtorta. Pauvres enfants, de Jésus à Maria Valtorta. Pauvres enfants, mes tout petits que j'aimais tant et qui doivent mourir ainsi. Les enfants qui meurent, tués par la haine dans un cœur. Que les pères et les mères sachent que pas une larme de leurs petits, pas un gémissement de ces innocents immolés ne reste sans écho dans mon cœur. Ces enfants sont eux aussi tués par des Hérodes farouches, gardiens d'un pouvoir que je leur ai donné pour qu'ils en fassent bon usage et dont ils devront me rendre compte. Il y a d'autres paroles, mais il nous reste très peu de temps. Ces paroles que je retranscris, non sans frémir, nous dit Joël, pour me rappeler, pour nous rappeler, qu'il nous sommes invités à nous repentir et prier sans cesse. Alors, enfin, il nous dit que il y a eu un temps où je croyais que ma vie était à moi, misérable petit moi, puis mes yeux se sont dessillés. Je sais maintenant que je me suis rendue à lui, que c'est au maître du monde que ma vie appartient, au Père, de toujours à toujours. Chaque jour, je la lui remets, encore et encore. Car tu vois à toi, le témoin véridique, comme je me reprends, j'hésite, comme je résiste à ton amour qui appelle sans cesse. Mais malgré tout, il prend toujours plus de place, sa place. Ainsi c'est écrit, qui s'achève, fait-il partie par excellence des dons qu'il m'a faits et que je lui rapporte comme une offrande au parfum agréable. Il nous voit nous débattant. En passant près de toi, je t'ai aperçu, baignant dans ton sang, je t'ai crié « Vie !» au milieu même de ton sang. Je répétais « Vie !» au milieu même de ton sang. J'étendis sur toi mon manteau et je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu m'appartiens. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui te couvrait et je t'oignis d'huile. Tu fus paré d'or et d'argent, ton vêtement était de fin lin, de soie, de broderie. Tu te nourrissais du pur froment, du miel et d'huile. Les entrailles de miséricorde du Seigneur s'émeuvent, il se penche sur nous, il vient nous visiter, il nous relève et nous transfigure. C'est ce que j'ai voulu transmettre de sa part. Mais prends garde à toi, veille à ne jamais oublier ce que tu as vu de tes yeux, veille à ce que cela ne sorte pas de ton cœur tant que tu vivras. Mais enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Dans sa bonté, il m'aura apporté son concours. J'ai voulu transmettre en restant au plus près de mon vécu, de ma pauvre et humble vie, avec la perception que j'en avais gardée. Je n'ignore pas qu'il se trouve là-dedans beaucoup de ma subjectivité, ce qui ne veut pas dire que cela soit faux, que cela ne soit pas juste et bon. Je sais que l'intelligence que j'ai des êtres et du monde ne peut être que limitée, parfois faussée, et que la pensée en est en constante évolution. Je n'ai bien entendu rien inventé, puisque j'ai voulu laisser, comme je l'ai pu, la vérité aimante m'inspirer et dicter des mots. Et je sais aussi que cette vérité, je ne la possède pas, car nul ne peut mettre la main sur elle. Car je sais que ni d'elle, ni d'où elle vient, ni où elle va, comme le vent, esprit de sainteté. Et Joël, après, mais nous n'avons plus de temps, évoque et nous y invite, et nous sommes sur Radio Maria, à rejoindre les prophètes d'hier et d'aujourd'hui, qui nous invitent à accueillir les grandes promesses des temps messianiques. Lui, le Juif, qui avait rencontré Jésus et qui est passionnellement l'a suivi, très probablement ouvert, dont le cœur avait été ouvert par les petits enfants du ciel, eh bien, Il nous invite et il a un grand chapitre sur les prophètes d'hier, mais aussi les prophètes d'aujourd'hui. Avec Marie, tous les messages de Marie. Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher, il évoque tous ces, que ce soit Bourrin, Banneux, Medjugorje. Voilà, mes petits-enfants, avez-vous compris l'importance de ma venue en ces temps-ci? Réfléchissez et comprenez que vous êtes en train de vivre les temps apocalyptiques et les petits-enfants au-devant de nous. Et Joël, nous, il nous a déjà fait pas mal de signes du ciel, lui qui a eu beaucoup d'épreuves et qui vraiment a vécu dans l'intimité profonde avec celui qui désire essuyer toute larme de nos yeux et qui nous promet de venir dans ces temps, même s'ils sont difficiles. Et tout ce qui nous est donné parfois d'annonces difficiles, c'est pour nous avertir et non pas pour nous faire peur, car Dieu ne fait rien sans nous avertir, mais pour nous aider et nous préparer. Alors, les petits-enfants qui sont au-devant de nous et Joël, nous y aiderons, et que des personnes qui sont dans le chagrin puissent être aidées et consolées par Joël, nous l'espérons. Alors, son livre s'appelle donc « Il essuiera toute larme de leurs yeux » et l'éditeur est auteur du Monde.
Monique Le Couffle, peut-être une question. Donc, Joël se retrouvait finalement le seul homme au milieu de participantes dans les retraites Vigne de Rachel.
Il y a quand même des hommes qui viennent de temps en temps.
Voilà, c'était justement ma question. Est-ce que des hommes ont suivi son exemple?
Oui. Oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que Joël, donc il était venu, puisque la règle, c'est quand on participe à cette œuvre de la Vigne de Rachel, d'abord, on le vive pour soi-même, toujours, hein, avant éventuellement de participer à l'animation. Et donc, Joël animait les sessions, hein, avec nous. Et c'est vrai qu'il y a de temps en temps des hommes. D'abord, il y a des personnes qui viennent en couple aussi, parce que c'est une souffrance du couple. Mais évidemment, il y a plus de femmes qui viennent participer aux sessions de la Vigne de Rachel. Mais les hommes sont tout à fait bienvenus, les papas. Et il y a des papas qui viennent tout seuls.
Alors, est-ce qu'il y a un accueil, enfin... L'accueil est le même, mais peut-être un accompagnement particulier pour les hommes qui diffère un petit peu des femmes du fait que, justement, on est masculin ou féminin.
Non, l'écrivait Joël, enfin, il le dit succinctement, mais les écritures vivantes, on vit le même cheminement avec les écritures vivantes, qu'on soit homme ou femme. Les papas et les mamans vivent le même cheminement. Mais après, chacun le vit de manière unique, puisque nous sommes tellement uniques, chacun. Et la grâce, c'est vraiment de pouvoir pleinement accueillir ces petits-enfants qu'on a perdus trop tôt et qui n'ont souvent pas eu vraiment leur place et qui restent comme enfermés en nous. Avec Géraldine, nous disons souvent que nous sommes des assistants de Jésus pour ouvrir les tombeaux. Avec Joël, on ouvre les tombeaux pour que Jésus puisse venir, pour que d'abord les parents puissent rejoindre cet enfant perdu et que dont on n'a pas vraiment eu l'occasion de pouvoir accueillir. Pour pouvoir vraiment le remettre en Dieu. C'est un chemin aussi de consolation de les savoir vivants dans le royaume. Et ça, c'est vraiment ce que Jean-Paul II a beaucoup, beaucoup affirmé dans l'Évangile de la vie, que ces enfants vivent désormais en Dieu et qu'on peut les prier. Et ça, c'est très important, l'altérité, qui prennent leur place, mais une juste place, pas une place de mort, une place de vie.
Alors, il nous reste 2 ou 3 petites minutes. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en conclusion de notre émission? C'est peut-être un message de vous, Monique, pour les hommes qui nous écoutent.
Eh bien, je dirais que Joël, il a été vraiment très courageux d'ouvrir son cœur à ce point-là et de le partager. Il a vécu lui-même une profonde guérison, et qui a été en plus associée à ce grand amour qu'il avait pour le Seigneur qu'il a rencontré, donc dans ses années de jeunesse après cette épreuve. Mais j'aimerais dire que le chemin du pardon et la guérison, c'est vraiment dans une relation vitale avec le Christ, et que le précieux témoignage de Joël, comme David, hein, mais en rencontrant des hommes qui, comme Joël, ont accepté d'être des témoins, nous découvrons que vraiment, une fois qu'on est sorti d'un voyage de tristesse, de guérison, de repentance, on est plus fort, rempli de foi et de compassion, et témoin de miracles de la miséricorde qui donne de passer des larmes à la joie. Et c'est vraiment Joël qui nous invite à ce passage des larmes à la joie. Parce que, comme pour la maman, nous en avons témoigné souvent dans nos émissions, que même si la vie a été interrompue très tôt, l'enfant, il a reçu de ses parents, donc de son papa, d'être. Et ainsi, même si sa vie a été très courte, les parents, la maman et le papa, lui ont donné un don immense, malgré eux, sans s'en douter, c'est de participer à la gloire divine. Et donc que les papas aussi soient vraiment consolés et qu'ils puissent aller à la rencontre de ces petits-enfants du ciel et en faire des intercesseurs puissants dans leur vie. Et une consolation. Eh bien, parce que parfois, il y a des grandes épreuves qui sont induites, des grands problèmes de vie qui sont induits par ces grands chagrins aussi, enfouis. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes témoins de telle grâce de guérison, tel cadeau du Seigneur, que ça permet vraiment à chacun de remplacer ce fond de tristesse qui enferme des larmes dans le cœur en vie et en joie et en transmetteur de vie.
Eh bien, merci beaucoup Monique Lecoufle pour cette émission, et on vous retrouve le mois prochain pour continuer à découvrir les miracles de la miséricorde.
Merci. Et vraiment que chacun, dans ce temps de cette nouvelle année, tous nos voeux de vie et de paix et de consolation lorsqu'on a besoin, vraiment. Parce que le Seigneur désire vraiment, vraiment essuyer toute larme de nos yeux.
Merci beaucoup Monique, à très bientôt. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Miracle de la Miséricorde avec Monique Lecoufle. Notre thème d'aujourd'hui, il essuiera toutes larmes de nos yeux. C'était une émission en mémoire de Joël qui est intervenu 2 fois sur Radio Maria, une première fois avec Monique Lecoufle dans l'émission Miracle de la Miséricorde et également dans l'émission Maternité blessée avec le docteur Pascal Pissochet. Vous pourrez réécouter l'émission d'aujourd'hui en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.